qui est augmenté encore par la pandémie. Une tragédie qui, malheureusement, n'est pas nouvelle. Et alors, justement, je me permets de vous parler en français, d'abord parce que c'est ma langue maternelle, mais ensuite de cela, parce que je crois qu'il devrait y avoir des transparents, des PowerPoint slides en anglais. Mais je les ai aussi en français, si jamais les francophones souhaitaient les avoir. Donc, si on commence, il faut bien dire que malheureusement, il y a maintenant des millions. On dit qu'il y a 40 millions d'esclaves aujourd'hui, c'est une estimation. Et alors, effectivement, je dois dire que notre cher pape François est très engagé dans cette lutte. Et qu'il n'est pas le seul, que je sais que l'archevêque de Canterbury qui est avec nous est aussi très engagé. Et qu'il y a eu aussi un appel spirituel le 2 décembre 2014 de dirigeants spirituels orthodoxes, protestants, bouddhistes, musulmans, israélites, s'engageant à abolir la traite des êtres humains. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là. Et alors, qu'est-ce que c'est que la traite? Si je peux dire, la traite, c'est en deux mots, l'exploitation d'un être humain par la contrainte ou par la tromperie. Et exploitation qui prend les formes de travail forcé, prend les formes de recrutement d'enfants, par exemple comme enfants soldats, d'esclavage sexuel sous forme de prostitution ou même maternité de substitution, maternité forcée. On parle même parfois d'usine à bébés en Ukraine, ou d'usine à bébés en Asie, ou en Afrique. Achat et vol d'enfants. Oui, ça existe. Pornographie infantile, je vous en parlerai plus après. Vol d'organes, ou la transplantation. Crime forcé, qui peut être mendicité, vol, trafic de drogue, terrorisme. Et alors, après quelques données, comme je vous dis, 40 millions de personnes, 70% de femmes, 30% d'hommes, et 50% peut-être dans l'exploitation sexuelle, 40% dans le travail forcé, 6% dans la criminalité forcée. Et par exemple, pour un chiffre qu'on cite pour l'Union européenne, parce qu'on pense souvent, oui, ça a lieu en dehors de l'Europe, pas du tout, c'est par exemple 1,5 million pour l'Union européenne. Et par exemple, vous voyez que dans les données, que pour la France, on estime qu'il y aurait 129 000 esclaves et le Royaume-Uni, 136 000, mais il y en aurait aussi 14 000 en Suisse et 15 000 en Autriche. Effectivement. Et alors après, il y a des gens, ça c'est un professeur britannique, Kevin Bales, qui est un grand spécialiste, et qui a fait une comparaison entre l'ancien esclavage, l'esclavage historique, et l'esclavage contemporain. Alors, il disait l'esclavage historique n'était pas mondialisé, à l'inverse de l'esclavage contemporain. L'esclave ancien était une propriété légale, officielle. Il avait une relation à long terme avec son maître. Et puis, les différences raciales étaient significatives, tandis que là, maintenant, l'esclavage contemporain, on a même des gens de la même famille qui sont victimes des mêmes communautés. Des coûts d'acquisition élevés, tandis qu'aujourd'hui, vous pouvez acquérir pour quelques dollars un enfant, une femme, un homme, etc. Les bénéfices étaient faibles dans l'ancien esclavage. Aujourd'hui, c'est une grande industrie. On dit qu'il y a des milliards de dollars de profits illicites. Et puis, dans l'ancien esclavage, il y avait un manque d'esclavage potentiel. Donc, ces esclaves étaient des prisonniers de guerre ou d'autres. Et puis aujourd'hui, il y a aussi plus d'esclaves potentiels parce qu'évidemment, des questions de misère, des questions de migration, des questions de criminalité font qu'il y a quantité de gens. Et alors, qui sont mis dans un état, je dirais, d'objet, de commodité, de marchandises à jeter. On pressure, et une fois que, bon, alors vous vous dites, mais attendez, ça me rappelle quelque chose, il y a 70 ans, dans l'Allemagne nazie, mais je dis mais maintenant, ce n'est pas simplement un régime monstrueux, mais c'est véritablement un système mondial. Et alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut voir, et là, je vous donne, par exemple, ce DeepNet, ce DarkNet, c'est un prêtre italien qui s'appelle Don Fortunato di Noto, un prêtre italien tout à fait remarquable qui est en Sicile. Et ce prêtre italien a fait un observatoire numérique de la pédopornographie. Donc, si vous voulez, de la pornographie en ligne qui touche les enfants. Et il dit, voilà, moi j'ai vu en 2019 entre 16 et 18 millions de photos d'enfants différents en Europe. En Europe. Alors, allez voir son site pour avoir davantage de détails, mais je pense que c'est véritablement quelque chose de monstrueux. Alors, ce qu'on voit ensuite, c'est que les défis et difficultés, c'est que nous vivons aujourd'hui. La pandémie, encore une fois, exacerbée cette caractéristique de notre société, de notre civilisation. C'est une civilisation d'absence de limites, du pouvoir, du profit et du plaisir. Et que cette civilisation du gaspillage, le pape François parle d'une civilisation du déchet, c'est une civilisation où on peut tout épuiser, tout jeter, sans aucune restriction éthique, légale, évidemment religieuse, maintenant on ne connaît plus ça. Et on voit aussi un pouvoir illimité d'un petit nombre d'individus, je ne vais pas les nommer ici, mais tout le monde les connaît, et on sait que ces individus ont fait des fortunes considérables pendant la pandémie. Alors, les victimes de la traite des êtres humains, je vous mets ça dans ce cadre de défis et difficultés, c'est que ce n'est pas simplement des groupes criminels organisés, mais c'est parfois des agents de police ou du gouvernement qui pratiquent l'esclavage. C'est souvent des propriétaires de maisons closes. Alors, malheureusement, dans certains pays comme l'Allemagne, il y a un système de prostitution légalisée, alors que je pense qu'il faut absolument que l'Église, que nous tous, fassions la promotion du modèle nordique. Le modèle nordique qui poursuit les propriétaires de maisons closes, qui poursuit les clients, mais qui, encore une fois, permet aux prostituées de ne pas être poursuivies pénalement et leur donne la possibilité de se réinsérer dans la société. Après, vous avez des agences de placement, oui, qui offrent des emplois à des personnes, et ensuite ces emplois se révèlent des esclavages. Des membres de la famille, comme je vous dis, alors malheureusement, ça existe. Des entreprises qui, sciemment ou consciemment, parce que vous avez vous achetez du cacao dans un pays africain, et puis vous dites, écoutez, moi je ne regarde pas ce qui se passe dans cette plantation de cacao, et alors qu'en fait, on sait très bien que malheureusement, dans ces plantations de cacao, il y a des enfants qui sont soumis à de l'esclavage forcé. Et puis, des milices ou des groupes armés, alors évidemment tout le monde mentionne le soi-disant État islamique, qui lui a réduit en esclavage des femmes yazidis, même des femmes chrétiennes, et puis a aussi obligé des enfants à combattre dans ces troupes. Des enseignants et des instructeurs religieux, alors dirais-je, j'ose croire que c'est surtout des enseignants musulmans, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi, qui profitent de la situation pour réduire leurs élèves à des situations esclavages. Dans la communauté diplomatique, malheureusement, on a aussi connu à Genève des esclaves domestiques, où vous aviez des diplomates qui ramenaient de leur pays d'origine des jeunes femmes et qui ensuite les réduisaient en situation d'esclave, sans salaire, sans congé, sans possibilité d'avoir une vie. Ouais. Et puis des courtiers en mariage frauduleux, parce que ça aussi c'est existant. Alors, on peut dire qu'il y a aussi un échec généralisé des gouvernements de lutter contre ce phénomène, et que cet échec devrait être prise en cause et que comment on pourra faire, j'essaierai de vous donner quelques pistes. Mais donc, d'abord, adopter et mettre en œuvre, évidemment en tant que juriste, je ne commence pas l'approche juridique, adopter et mettre en œuvre des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, par exemple le Conseil de l'Europe a une excellente convention contre la traite des personnes, avec un comité d'experts, Greta, qui pourrait être un modèle d'ailleurs dans le reste du monde. Mais ces instruments juridiques internationaux et nationaux, ce n'est pas simplement pour poursuivre, parce que malheureusement les poursuites pénales sont très limitées, très limitées. Il y a un cas sur plusieurs milliers qui est poursuivi. Alors qu'en fait, il faudrait essayer de lutter contre la demande. Lutter contre la demande, contrôler les chaînes d'approvisionnement des entreprises et promouvoir un travail décent d'un bout à l'autre de la chaîne, et pas simplement dans nos pays, mais aussi dans les pays d'origine, et des entreprises socialement responsables. Alors après, je viens Covid et numérique, parce que je pense justement, le Covid, comme le dit le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, il dit, voilà, la pandémie n'a pas entamé la détermination des groupes criminels organisés à s'attaquer aux personnes vulnérables afin de tirer profit de cette criminalité, trop souvent au prix de la vie des victimes. Bon. Et alors, en effet, la pandémie a eu un aspect dévastateur sur les personnes. Elle a réduit leur vulnérabilité au travail forcé et, encore une fois, à des offres frauduleuses d'emploi, à des offres de mariage frauduleuses. Et donc la traite des humains, en particulier des migrants et des réfugiés, pourrait encore empirer. Et l'utilisation accrue des outils numériques pendant la pandémie a créé de nouveaux modèles de travail, détruisant les lieux de travail existants et facilitant la délocalisation et l'exploitation, mais là aussi augmentant la vulnérabilité des victimes et augmentant aussi les possibilités de contrôle des trafiquants sur les victimes. Et alors, les outils numériques, et en particulier les réseaux sociaux, parce que vous avez des... on parle beaucoup de Facebook, on parle beaucoup de... même d'Instagram et de LinkedIn, mais elles prennent une part importante dans le recrutement des victimes. Et alors, il y a évidemment, par exemple, que ce soit les enfants, mais d'autres personnes passent beaucoup plus de temps devant leur ordinateur et sont évidemment susceptibles de voir et tout d'un coup d'être très tentées d'entrer en dialogue avec une personne qui va essayer de créer la confiance et qui va ensuite faire des propositions qui sembleront absolument admirables et qui seront des pièges. Et alors, là aussi, il y a des victimes qui sont plus facilement trompées. Il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des images de pédopornographie qui sont plus facilement diffusées. Il y a aussi un accès des migrants aux trafiquants. Alors, encore une fois, pas simplement Facebook, mais parfois aussi des plateformes de logement et de covoiturage, excuse-moi, qui peuvent parfois. Donc, je sais pas si notre ami Bertrand est venu hier en Blablacar. Mais heureusement, tu avais un conducteur honnête, et puis toi, tu as un garçon qui se défend. Mais je pense donc là, on a. Et puis, le transport et la falsification des documents sont souvent proposés par des passeurs de migrants. Alors parfois on me dit, ah mais il ne faut pas confondre les gens qui facilitent le passage d'une frontière et les trafiquants. Mais malheureusement, souvent, on passe facilement d'une catégorie à l'autre. Et si vous avez passé le désert du Sahara avec un passeur et vous arrivez en Libye, vous risquez malheureusement de tomber dans les mains de trafiquants. Alors, et maintenant, une autre difficulté donc amené par le Covid, c'est que la poursuite des criminels est rendue plus difficile. Et que l'application des restrictions sanitaires devient prioritaire pour les forces de l'ordre. Et il y a une impunité accrue donc pour les trafiquants qui peuvent agir plus facilement, plus rapidement, et avec moins de risques. Et fausse identité, transactions intraçables, compte utilisé pour le recrutement supprimé très rapidement. Alors, mon dernier élément, mon dernier élément, c'était de vous dire, et ça c'est pas sur le c'est pas sur les diapositives English side, mais COVID et numérique. La pandémie et l'usage accru du numérique devraient nous faire utiliser aussi mieux les instruments numériques, Internet, pour, un, sensibiliser les personnes qui pourraient être vulnérables à par des campagnes d'information publique. Parce que, encore une fois, il faut qu'on se rende compte du défi de ce fléau. Deuxièmement, former des personnes qui sont en contact avec ces personnes vulnérables, avec les victimes et les survivants. Et ces personnes, c'est d'abord évidemment des policiers dans les villes et aux frontières, pour que ces personnes puissent reconnaître les victimes. Ah tiens, il y a une femme là qui a l'air d'être blessée. C'est bizarre, elle n'est pas tombée dans un escalier pour avoir ce genre de blessure. Tiens, il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui me semble terrorisé dans un avion à côté d'un adulte. Et c'est visiblement pas une relation très normale. Eh bien, il faudrait que là aussi, la personne de bord d'un avion puisse prévenir la police à l'arrivée et dire, écoutez, il faudrait peut-être que vous contrôliez ce qui se passe avec ces deux personnes. Et puis, il y a aussi les médecins et les infirmières. Alors, je peux vous dire que justement, moi, j'ai rencontré des médecins à Genève qui, eux, ont la formation pour cela. Et quand on leur amène une personne qui vient pour des soins, savent poser les questions et puis savent orienter cette personne après vers les services sociaux ou d'autres qui pourront les aider. Des prêtres et des pasteurs, parce que souvent, c'est le seul moment où ces personnes peuvent sortir, c'est d'aller dans une église ou dans un temple, et donc là, peut-être le prêtre, ou le couvreur de personnes un peu, je dirais, accablées, peut-être pourrait approcher cette personne et aussi lui indiquer des endroits où elle pourrait trouver refuge et secours. Et puis des congrégations religieuses. Alors là, je dirais que beaucoup de congrégations religieuses chrétiennes, pas simplement catholiques, mais aussi anglicanes, mais certainement des protestants et certainement d'autres, sont en effet très actives sur le terrain, sur le plan national, régional et international auprès des victimes. Et très souvent, ce rôle est inconnu, si je puis dire. Alors, et puis, le troisième élément, je dirais, pour l'usage accru du numérique, serait de partager les bonnes pratiques. Parce que justement, il y a des gens qui disent, mais écoutez, c'est un phénomène monstrueux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Eh bien, si on peut vous dire, il faut partager les bonnes pratiques, il faut peut-être aussi envisager ses causes économiques et sociales, mais aussi sa dimension spirituelle. Alors, c'est là où je reviens, encore une fois, sur le pape François. C'est là aussi, je reviens sur cet appel interreligieux. Heureusement, il y a des gens qui reconnaissent que ce n'est pas simplement un problème économique et social, ce n'est pas un problème d'esclavage traditionnel dans certains pays, ou de système de caste, c'est un problème aussi spirituel. Donc, et il faut aussi dire, nous vivons une civilisation qui est une civilisation qui a, en tout cas jusqu'à la fin du siècle dernier, été triomphaliste. On était dans le triomphalisme des droits de l'homme, on était dans le triomphalisme de la coopération internationale, on était dans le triomphalisme de l'humanitaire. Et tout d'un coup, on découvre que, somme toute, on est retourné presque à la case zéro, donc à la négation de la vie et de la dignité des êtres humains. Donc, et moi je voudrais, comme le disait le père Poulain ce matin, il faut réaffirmer dans notre action et nos prières la fraternité de tous les êtres humains. Et qu'une fraternité qui est fondée sur la reconnaissance et la gratitude à nos pères créateurs communs. Et c'est aussi dans cette dimension spirituelle donc, que la lutte peut être menée, aussi pour examiner dans chacun d'entre nous, dans nos achats, dans nos relations avec les uns et les autres, d'examiner comment nous pouvons œuvrer non seulement à libérer les autres, mais à nous libérer nous-mêmes de nos propres esclavages de plaisir, de pouvoir et de profit. Je dirais vaste programme, mais enfin, je suis heureux d'avoir pu pour me partager et je répondrai tout à l'heure à vos questions. Voilà, merci.
Merci beaucoup Michel, tu nous laisses 4 minutes 30 donc.
C'est un bonus pour le café.